Chapitre 3. Un vis-à-vis semblable à lui. Un vis-à-vis, non un marchepied. Soutenir son mari et accepter de faire de lui le chef du foyer ne veut pas dire avoir une attitude de paillasson. Au contraire, cela requiert intelligence, force et maîtrise de soi. Une mauvaise interprétation du rôle d'aide peut conduire la femme à se rebeller ou à devenir apathique. N'ayant pas le rôle du leader, elle se déconsidère parfois et se désengage. À tort, elle s'imagine que le plus grand cadeau qu'elle puisse faire à son mari est de s'effacer. Cette attitude ne correspond en rien au plan de Dieu. Il n'a pas dit, comme beaucoup semblent le croire, « Je lui ferai une aide inférieure à lui », mais bien « semblable à lui ». Cette égalité se révèle à Golgotha, où le même sang a coulé pour donner aux hommes comme aux femmes le pardon et la vie éternelle. L'apôtre Pierre le souligne, les épouses chrétiennes sont au même titre que leurs maris héritières de la vie éternelle et doivent à ce titre être honorées par leurs époux. 1 Pierre 3, verset 7. Dans le plan divin, l'homme et la femme sont dotés de forces différentes et complémentaires. Ils ont chacun un rôle à jouer. Dieu les aime d'un amour tout aussi intense, même s'il leur a confié des fonctions distinctes. Pour que la femme prenne sa place, elle doit réaliser que son rôle est indispensable à la réussite du couple. C'est tout l'opposé d'une tâche mineure dans laquelle elle aurait été cloisonnée. Alfred Kuhn, dans son livre « La femme dans l'Église », affirme que l'épouse n'est en rien inférieure à son mari, sous prétexte qu'elle a été créée pour être son aide. Genèse 2, verset 18. « Ézer » en hébreu. Il nous explique que ce terme « Ézer » est utilisé lorsque Dieu vient au secours d'Israël. Il ne contient pas de relation d'infériorité. En fait, il existe quatre autres termes hébreux contenant une notion de subordination pour traduire le mot « aide ». Mais lorsque Dieu se constitue aide de l'homme, ce n'est pas pour lui donner un petit coup de main, mais c'est pour le délivrer, Exode 18, verset 4, rendre ses mains puissantes contre ses ennemis, Deutéronome 33, verset 7, et le sauver, verset 27, 29. Le protéger comme un bouclier, psaume 33, verset 20. Tous ces passages utilisent le mot « Ézer » pour décrire le rôle de Dieu. Il est notre aide car il nous inspire, nous conseille et nous épanouit dans tous les domaines de notre personnalité. C'est ainsi que la femme peut remplir sa mission auprès de son mari. Ce n'est pas une adjointe subordonnée qui complète l'homme en ajoutant son grain de sel. Elle est appelée à être un vis-à-vis sur le même niveau, à part égale, semblable tout en étant différente. Elle peut être aide et vis-à-vis dans tous les domaines de la vie, du ministère du couple en donnant un avis différent. Désaccords et disputes ne doivent pas être synonymes. La première fois que j'ai lu la mésaventure de la reine Vasti, répudiée si brutalement, j'ai refermé ma Bible. Toute ma sympathie allait à cette malheureuse qui avait tout perdu pour avoir refusé de s'exposer au regard d'homme qui avait probablement trop bu. Non, décidément, ce texte de l'Ancienne Alliance me semblait dépassé. Désormais, je m'en tiendrai au Nouveau Testament. C'était compté sans les coïncidences divines, car le soir même, Reona Peterson, oratrice néo-zélandaise, nous enseignait sur ce passage du livre d'Esther. Elle nous expliquait comment l'esprit de rébellion attaque nos foyers pour en saper l'autorité, dressant épouse contre mari et enfant contre parent. Son objectif final est la destruction de la cellule familiale. Ses fruits révèlent sa véritable identité. Les conflits existent. Inévitablement, des désaccords surgiront dans nos foyers. Tiraillements financiers, retards répétitifs, conflits dans l'éducation des enfants ou encore choix des loisirs. Comment y faire face sainement? Réagir par des remarques acerbes, faire la tête, permet à l'esprit de division de s'infiltrer dans nos cœurs et nos foyers. Le fait d'avoir raison n'est pas un passe-droit nous autorisant à être agressives ou dures. Exprimer un désaccord ou un problème peut se faire sans attaque ni accusation. Plus une parole est aimable, plus elle est persuasive, affirme le livre des Proverbes. Proverbe 15, verset 1. Que va-t-il se passer pour la nouvelle reine lorsqu'un conflit grave germera entre elle et son époux? Abusé par Haman, premier ministre, le roi ordonne le génocide du peuple juif. Comment Esther va-t-elle réagir? Elle sait qu'elle ne peut directement contrecarrer la perfide influence de Haman. Doit-elle révéler ses origines juives? Elle sent que la chose n'est pas mûre. L'influence du premier ministre est bien trop forte sur l'esprit du roi. Elle consulte alors une source de sagesse supérieure. Elle va s'appuyer sur Dieu, tout en gardant une attitude empreinte de respect envers son époux. Est-ce de la faiblesse? Non, au contraire. Cette incroyable maîtrise d'elle-même sera la clé qui renversera la situation et sauvera son peuple. Pourquoi notre jeune héroïne est-elle si convaincue du principe de la soumission? Derrière l'autorité humaine, elle voit celle de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Romains 13, verset 1b. Voir les choses sous cet angle lui permet de garder une attitude paisible face à son père adoptif, à l'eunuque et devant le roi, puisqu'en les honorant, elle honore Dieu. L'hébreu nous donne un éclairage intéressant sur la signification de la soumission dans le couple. Éphésiens 5, 22. Comme déjà mentionné, le texte hébraïque décrit l'aide semblable à l'homme comme étant « ezer kenegdo », une aide contre lui. Cela peut sembler ambigu, mais chercher le meilleur pour quelqu'un, en l'occurrence le mari, ne passe pas par une compréhension bienveillante illimitée. Élever un avis contraire n'est pas une permission, mais le devoir d'une ezer kenegdo. Comme le dit si bien ce proverbe, du choc des idées jaillit la lumière. La soumission n'est pas à confondre avec l'obéissance d'un enfant face à ses parents. En fait, il s'agit d'une relation d'adulte à adulte où celui qui se soumet n'est pas infantilisé. Il choisit par amour de mettre à la disposition de son chef toute son intelligence, toutes ses ressources pour aider ce dernier. Il peut donc y avoir des accords sur les stratégies à utiliser, mais consensus sur l'objectif final. Comme l'Église se soumet au Christ, de même les femmes se soumettent en toutes circonstances à leur mari. Éphésiens 5, 24. L'Église est bien cette fiancée accomplie, qui prend des initiatives pour mieux prévenir les désirs du bien-aimé, avec maturité et sensibilité. Est-elle aussi cette ezer kenegdo, cette aide contre lui, appelée à élever un avis contraire? Une telle notion est-elle compatible avec la soumission à Christ? Oui. Dans l'intercession, des hommes ont lutté avec Dieu, implorant sa miséricorde, son pardon, sa grâce, alors que Dieu voulait étendre ses jugements. C'est l'histoire d'Abraham plaidant pour Sodome et Gomorre, ou celle de Moïse intercédant pour le peuple, contrariant le Seigneur, et pourtant en plein accord avec son caractère. Obéir dans la soumission? Non. Désobéir dans la soumission? Parfois. L'obéissance extérieure doit être le reflet d'une attitude intérieure, à l'opposé de celle de ce petit d'un an qui, dans sa chaise de bébé, défie du regard sa mère, semblant lui dire « Oui, tu m'as fait asseoir, mais dans mon cœur, je suis debout. » Il obéit, mais il est en totale rébellion. Cette attitude est dangereuse pour un couple. La rébellion qui gronde va un jour faire irruption tel un volcan en ébullition. Lorsque nous acceptons de nous soumettre à une autorité, nous démontrons notre respect envers Dieu, source des autorités. Si nous remettons notre sort entre ses mains, nous verrons son intervention. L'apôtre Paul a prêché et a vécu la soumission envers des autorités très dures. Étant injustement emprisonné, il était sûr que son sort reposait entre les mains de Dieu. Était-il passif pour autant? Non. Lorsqu'on ordonne de le frapper alors qu'il amorce sa plaidoirie de défense, il se révolte et traite l'auteur de cet ordre de muraille blanchie. Acte 23, verset 3. On lui fait alors vivement remarquer qu'il vient d'insulter le souverain sacrificateur. Paul se reprend. Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. Acte 23, verset 5. Il n'est pas d'accord avec l'injustice commise, mais il choisit de respecter l'autorité. Cela ne l'empêche nullement de continuer à assurer sa défense. Il est ainsi possible de rester soumis à une autorité tout en exprimant son désaccord. La loi ou l'esprit? Tout en gardant une attitude remplie de respect, il peut arriver que l'épouse soit amenée à désobéir. Il s'agit des cas où la loi de Dieu est clairement transgressée. Si votre mari vous demandait de tromper le fisc ou de voler votre voisin, vous ne pourriez l'accepter. Sous le règne de Pharaon, les sages-femmes juives avaient reçu l'ordre de mettre à mort tous les bébés mâles. Ce monarque représentait la plus haute autorité de l'époque. Ceux qui lui désobéissaient mettaient leur vie en jeu. Pourtant, ces sages-femmes craignaient Dieu plus que les menaces de mort. Elles ont désobéi et ont laissé vivre les garçons. Dieu les a bénies pour avoir agi courageusement par respect pour lui. Exode 1. Une chrétienne, épouse d'un haut fonctionnaire congolais, s'est retrouvée enceinte pour la quatrième fois. Son mari lui a ordonné d'avorter et lui a remis l'argent pour l'intervention. Qu'auriez-vous fait à sa place? Elle a pris l'argent, acheté de la layette et elle a accouché d'un magnifique bébé. Furieux, son époux ne l'a nullement soutenue lors de la naissance. Plusieurs années plus tard, il s'est converti et, en larmes, lui a demandé pardon d'avoir ordonné la mort de leur enfant. L'amour vrai permet de conjuguer respect du mari et attachement à la parole de Dieu. Cette attitude droite est parfois bien difficile. Celui qui pèse les cœurs sait ce que vous vivez. Il vous conduira alors que vous cherchez son conseil. La soumission, source de protection et d'autorité. L'un des devoirs du mari est de protéger son épouse. Il ne peut jouer ce rôle que si celle-ci souscrit à sa protection. Un corps à deux têtes est un monstre. La soumission n'exclut en rien le dialogue et l'écoute commune du Seigneur. Bien comprise, bien vécue, elle est une source de paix et de bien-être pour toute la famille. Larry Christensen, dans son livre « La famille chrétienne », nous rapporte une anecdote qui démontre la force d'une saine direction dans le foyer. Un jour, un enfant a traité sa mère d'imbécile. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que, juste derrière lui, se tenait son père. Celui-ci l'a soulevé par la ceinture et lui a sévèrement demandé « Qui est l'imbécile ?» Pris de panique, le petit s'est écrié « C'est moi, c'est moi !» faisant rire toute la famille par son attitude soudainement si conciliante. Mais la leçon a porté ses fruits. Tous ont compris qu'attaquer maman signifiait avoir des ennuis avec papa. Cela a démontré aux enfants la force et l'autorité de l'accord parental. Fréquemment, le mari délègue son autorité à sa femme pour qu'elle dirige la maisonnée en son nom. Quand l'épouse est menacée, ingérence de la belle famille, voisin mécontent, incident public, si au lieu de se défendre, elle répond « j'en parlerai à mon mari », la tension diminue. L'autorité reconnue donne soudain une nouvelle force à ses propos, car on sait qu'en dernier ressort, la personne de référence est le chef de famille.